Abhisarya, de la cause du sommeil lucide. Séance 3, suite de la précédente. Maintenant, nous pouvons expliquer comment l'homme, sans s'en douter, influe quelquefois sur ses actions et croit qu'elles appartiennent à l'influence d'un autre. L'homme ne connaît que ce qui est entré dans son esprit par l'intermédiaire des sens et ignore tout à fait ce qui dérive de l'état intuitif de l'âme, où elle dirige le mouvement qu'il regarde comme nécessaire. Il ne peut donc attribuer qu'à un autre ce dont il est la cause lui-même, c'est-à-dire à l'âme intuitive qui règle ses actions nécessaires. Cette âme intuitive est la nature individuelle même qui agit par habitude et par instinct, et non par choix et par réflexion. Ainsi, les époques attribuent toujours à l'influence d'un autre ce dont ils sont la cause eux-mêmes. Et s'il en est quelqu'un qui, dans les cas singuliers, se reconnaisse être l'auteur de quelques actions, il ne se reconnaît jamais comme l'auteur de toutes pendant le cours de son existence intuitive. Toutefois, cette âme intuitive est plus susceptible de réflexion dans l'état où l'homme a des dispositions au sommeil lucide que dans l'état où, par la densité du sang, il en est tout à fait privé. Quelle que soit la raison pour laquelle l'âme se trouve essentiellement assujettie, dans son union avec le corps à l'influence de ce guide vital, l'observation et l'expérience prouvent toujours jusqu'à l'évidence qu'elle y est assujettie d'une manière péremptoire et décisive. On remarque que dans la densité du sang, l'âme est tout à fait engourdie et absorbée pour s'occuper d'autres objets que celui de son travail d'habitude. Et cependant, elle s'en occupe aussi parfois, mais d'une manière si irréfléchie et si négligée qu'elle a l'air d'y porter son attention malgré elle. Ainsi, résulte-t-il que tous les songes qui ne sont que l'expression de l'ordre de ses idées sont toujours, dans cet état, une réunion d'éléments décousus, chimériques et absurdes. Dans la liquidité du sang, l'âme, quoique toujours restreinte dans l'usage de sa liberté interne, a encore beaucoup de moments d'une lucidité spontanée. Ainsi, ses songes sont plus réguliers et expriment souvent des vérités occultes, tantôt clairement et tantôt sous des figures indéchiffrables. C'est toujours dans cet état que l'homme attribue ses actions extraordinaires à une influence étrangère tout en y contribuant lui-même par l'influence de son principe intuitif. L'âme humaine puise souvent dans les idées sensitives des motifs de s'affecter et exprime ses dispositions par des sensations internes. Elle peut de même en puiser aussi dans les objets externes en raison de la possibilité qu'elle a de circonscrire tout l'espace et d'y connaître ce qui a des rapports à l'individu dont la conservation est la principale de toutes ses occupations. Telle est la cause de beaucoup de crispations naturelles des nerfs, de vapeurs chez les femmes, ainsi que des pressentiments, des pressentiments et des songes. Cette concise explication peut faire voir pourquoi, avec toute la volonté sensitive, ne sont pas époques occasionnelles ou naturelles tous ceux qui ont des dispositions requises. C'est que le sommeil, en général, est de la catégorie des effets du mouvement nécessaire et non libre. La seule volonté sensitive ne suffit donc pas pour le provoquer. Il faut aussi une volonté intuitive qui en est la seule cause immédiate. Ainsi, nul individu de l'espèce humaine ne connaît le moment précis du passage de l'état de veille à celui du sommeil. Les hommes s'y disposent par la concentration libre. Et dès que la vérité intuitive se développe, ils deviennent tout à fait étrangers au mode de son pouvoir. Je n'ai plus besoin de prévenir que cette manière de parler suppose toujours l'absence de toute entrave. Il ne suffit donc pas que les personnes qui ont des dispositions requises aient seulement une bonne volonté sensitive de dormir. Il faut aussi que cette faculté soit d'accord avec la faculté intuitive. C'est ce qui n'est pas commun. Ces personnes ont d'ordinaire des craintes paniques dont elles ne peuvent pas se rendre compte. et quelques-unes aussi, d'autres préventions qu'elles ne peuvent pas maîtriser. En général, elles en ignorent la nature et peut-être même l'existence, parce que ces causes appartiennent rigoureusement à la modification intuitive de l'âme. Ainsi, il arrive souvent que des épeuptes naturelles, au simple mot « dormez », exempt de tout autre accessoire de geste ou d'attouchement, tombent dans les pamoisons, éprouvent des transpirations abondantes, ressentent des suffocations et des palpitations au cœur. Et s'ils arrivent au sommeil, ce n'est qu'au milieu des spasmes et des convulsions, et sans intervention de toute intuition. De ceux même qui ont l'apparence de dormir, la première fois, avec calme et tranquillité, il y en a beaucoup qui, dans les sommeils suivants, éprouvent pendant quelque temps des malaises, des maux de tête et des engourdissements. Et ils ne se tranquillisent tout à fait sur leur état que lorsque leur volonté sensitive se trouve parfaitement d'accord avec leur volonté intuitive. C'est-à-dire lorsque l'expérience propre leur donne la conviction que l'état de leur sommeil n'a rien de pénible ni de dangereux. Dès lors, pour dormir, ils n'ont besoin que de s'entendre dire simplement « dormez ». Parce qu'en raison de leur disposition, ils rendent par l'exercice intuitif leur état sensitif. Cette conviction, qui seule règle et dirige la volonté intuitive, manque en général dans les épeuptes naturelles qui veulent devenir des épeuptes occasionnelles, tout en étant aptes à la voir mieux que personne en raison de leur complexion du moment. Nous verrons dans la suite qu'elle doit être intime pour jouir du pouvoir de régler et de diriger la nature individuelle. Des accessoires qui accompagnent le sommeil lucide et qui parfois le précèdent aussi, d'après les dispositions physiques et d'après la force et l'intensité de la conviction intime des épeuptes, les uns regardent purement leur corps et les autres purement les connaissances de leur âme. Nous allons en faire une analyse succincte en prévenant que, dépendant tous de chaque épeupte, ils ne se développent pas tous dans toute épeupte. Notre intention ne tend d'ailleurs qu'à faire voir au lecteur, sous un seul coup d'œil, tout ce qu'étale de merveilleux dans le sommeil lucide, surtout la nature individuelle de l'homme. Il faut croire qu'en sortant des mains du suprême ouvrier, l'homme primitif a joui, par le droit de nature, d'autres prérogatives que de celles qu'il étale maintenant, et que par un désordre irréparable, il en a perdu la jouissance libre et arbitraire. Du moins, l'homme tel qu'il est, ou l'homme actuel, montre que dans certaines dispositions physiques, il en développe encore quelques esquisses, et ne pense pas que ce n'est qu'un misérable reste d'une autorité pleinement possédée et en grande partie perdue. Il s'enflamme devant un objet d'amour ou de haine. Il frissonne d'effroi ou d'horreur. Il s'agite de chagrin ou d'inquiétude. Il palpite de crainte ou de surprise, et néanmoins, démenti par le fait, il pense encore, sans pouvoir se dissuader de son opinion, qu'il existe chez lui un mouvement nécessaire, indépendant de son pouvoir. Est-ce que toutes ces affections ne sont pas des modifications du mouvement appelé nécessaire et provoqué par la volonté propre qui ne lui est pas inconnue? Ce qu'il y a d'évident, c'est que dans certaines dispositions du corps, et surtout dans le sommeil libre, les épeuptes maîtrisent au gré du concentrateur le mouvement libre et nécessaire. Et ils le maîtrisent avec une telle facilité qu'ils semblent ne faire qu'une action simple, commune et ordinaire. Ils pensent eux-mêmes que ce pouvoir n'existe que dans la volonté de ce directeur et ne se corrigent pas de leur erreur lorsqu'ils s'aperçoivent que s'ils n'ont pas toutes les dispositions requises, nulle force externe n'assure eux le moindre exercice d'autorité. Mais comment peuvent-ils penser autrement s'ils n'ont rien vu, rien lu, rien entendu dire de l'existence de cette faculté merveilleuse, si l'on a de la peine à leur inculquer dans le sommeil lucide même, où tous les ressorts de leur esprit sont pleinement développés, que cet exercice n'appartient exclusivement qu'à la seule autorité privée, comment pourra-t-on les induire à le penser dans le pur état de sensation, où ils partagent avec toute l'espèce humaine le préjugé de croire que l'homme n'a jamais été autre chose que ce qu'il est? Puis-je espérer qu'un savant même puisse en penser autrement devant un raisonnement péremptoire? Les époptes disposent à l'ordre des concentrateurs de tous les organes externes ou internes au gré de leurs désirs, de sorte que ceux-ci les assujettissent à recevoir les impressions voulues indépendamment de toute action sensible des objets analogues, des objets analogues, et à exciter dans l'âme les idées correspondantes. Ainsi, sans la présence des objets propres, les époptes voient, flairent, entendent, palpent, goûte ce qui n'est que nommé, mais sous la condition de la liquidité du sang, sans laquelle ces organes ne sont point susceptibles d'exercer ces fonctions respectives. L'ouïe, par exemple, ne peut pas écouter ce qui ne se dit pas, mais elle écoute dans les époptes ce qui a été dit une fois et ce qui se dira un jour. Cependant, il est aussi des occasions où ils écoutent ce qui n'a jamais été dit, et ce qui ne se dira jamais. De même, on ne goûte pas sans un comestible ou sans un potable, mais dans tout comestible et tout potable, les époptes trouvent la saveur déterminée qui n'existe pas dans ce qu'on leur présente. De même, ils ne palpent pas un corps qui n'est pas dans la nature, mais ils palpent un corps qui n'est pas devant eux. Et ils sont palpés de même sans être touchés, de la manière qu'on le leur annonce. Pour la vue et pour l'odorat, ils voient et flairent tout ce qui leur est connu, quoiqu'il n'en ait pas les objets devant eux. Il ne faut pas croire que tous ces effets ne sont qu'illusoires. Ils sont si réels qu'ils répondent dans leur corps à tous ceux qui appartiennent à leur cause naturelle. Ainsi, un verre d'eau avalé dans l'idée d'eau-de-vie enivre complètement. Dans l'idée d'un purgatif, évacue autant qu'exige la nature. Dans l'idée d'un émétique, provoque le vomissement sans effort et sans souffrance. De même, de l'eau présentée aux narines comme une odeur dissolutive d'un dépôt dans la tête produit l'effet annoncé. Il en faut dire autant des autres sens en ce qui les concerne. Il en résulte qu'une poudre indifférente, étant administrée comme un curatif des plaies internes ou comme un vermifuge, atteint son but d'une manière aussi prompte qu'efficace. Et voilà ce qui concerne l'empire des époptes sur leurs organes internes. D'après l'énonciation de leur concentrateur, d'après cela, il n'est plus besoin d'accéder aux ordres de ces derniers. Les premiers se paralysent dans le nombre nommé, éprouvent les douleurs annoncées et se soulagent sur le champ même de leurs souffrances chroniques. Ce dernier effet ne peut être complet dans sa guérison radicale qu'avec la répétition des actes successifs. Ce qu'on doit plus particulièrement y remarquer, c'est que tous ces effets se développent non seulement pendant le sommeil lucide, mais même aussi dans l'état de veille des époptes, lorsqu'ils ont été du moins une fois endormis occasionnellement. Ils sont communs à tous les époptes, toutes les fois que la conviction intime chez eux est la même. Néanmoins, ils ne se développent pas toujours dans certains membres indéterminés chez quelques-uns d'entre eux, par la raison connue de la densité du sang qui y séjourne. Aussitôt qu'une saignée ou des sangsues les en dégagent, ils y éprouvent les mêmes effets que dans les autres parties du corps. Si l'âme, dégagée des sens comme elle l'est dans le sommeil lucide pendant lequel l'action de son commerce avec le corps est moins énergique et plus faible, exerce sur lui un pouvoir aussi absolu, il semble que dans l'état de sensation où elle montre avoir avec lui, une union plus solide. Elle devrait le maîtriser avec moins de difficultés et plus de liberté. Cependant, l'expérience nous montre que, hors la sphère du mouvement appelé libre, elle n'a qu'une autorité très restreinte sur son enveloppe. Il faut convenir de bonne foi que cette impuissance provient chez l'homme d'une impossibilité physique plutôt que d'une négligence irréfléchie. Il est certain que si l'on élevait au maillot un enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, il se trouverait, étant dégagé de sa prison au bout de ce terme, gêné dans l'usage de ses jambes. Mais il est également certain aussi que sans autre leçon que l'exemple de ses semblables, il se suffirait dans la suite pour en connaître l'usage et l'utilité. Toutefois, je suis convaincu que, si dès le berceau, on apprenait à un enfant à maîtriser la palpitation de son cœur, la circulation de son sang, la pulsation de ses artères, la respiration, la digestion, on n'en obtiendrait dans un âge adulte aucun fruit proportionné aux soins de son instruction. Parvenu à l'âge de la réflexion, il se moquerait même peut-être d'une doctrine dont il ne verrait nulle part la pratique et l'observance. Ceux qui exercent par une disposition naturelle une portion de cette autorité sur quelques branches du mouvement nécessaire sont exceptés de la règle générale qui concerne la masse entière de l'espèce humaine, parce qu'ils ont les dispositions requises pour être des époptes occasionnelles et se trouvent dans leur catégorie. Cependant, il est constant que l'amour et la haine, l'effroi et l'horreur, les chagrins et les inquiétudes, la crainte et la surprise, sans maîtriser le mouvement nécessaire au gré des désirs, influe toujours sur lui, pour le déranger dans sa marche régulière dans tous les individus de l'espèce humaine. Souvent même, cette influence altère aussi l'action naturelle des sens externes, une prévention contre une douleur agréable, contre une odeur suave, contre une saveur délicieuse, contre une harmonie mélodieuse, contre les impressions d'un attouchement flatteur, fait éprouver des sensations tout à fait opposées à celles qu'en éprouve le commun de l'espèce humaine. N'arrive-t-il pas quelquefois que des personnes sont frappées d'une répugnance insurmontable pour un mets déterminé, si elles entendent dire, même par plaisanterie, qu'il a été apprêté avec une coupable négligence de propreté ou qu'il est composé de viande que réprouve l'usage des aliments adoptés ? Ou de qu'il a été souillé par quelque insecte qui inspire de l'horreur. Il existe donc chez l'homme une puissance partielle sur le mouvement nécessaire, mais non telle qu'il en est, telle qu'il en développe dans le sommeil lucide, en raison de ses dispositions physiques. Il faut donc établir d'abord que ses effets paraissent illusoires, même à ceux qui étudient ce phénomène. Ils ne peuvent pas répugner à l'état des époptes, puisque dans certaines occasions, on en remarque des esquisses très frappantes dans tous les hommes et qu'ensuite, leur supériorité sur eux, qui sont communs à tout individu, ne provient dans les époptes que d'une certaine complexion déterminée, mais accompagnée de la conviction intime. En effet, tous ceux qui en sont doués ne donnent pas toujours ces merveilleux et incroyables résultats. Mais il faut aussi remarquer que la différence de ces effets qui influent sur le mouvement nécessaire est extrêmement sensible. Ceux qui sont communs à toute l'espèce humaine exigent un motif précis et déterminé, au lieu que ceux qui ne sont propres qu'aux seules époptes se développent toujours aussitôt qu'ils sont nommés. Ils tiennent à la volonté des époptes, lors seulement qu'elle est engagée par le concentrateur, comme le mouvement libre tient à la volonté habituelle de tout homme. C'est qu'ils ne dépendent d'aucune étude ni d'aucun exercice, mais d'un certain état de l'homme qui approche de l'équilibre de ses fluides et de ses solides, équilibre à jamais banni de la nature. L'homme actuel, par sa désorganisation constitutionnelle, l'a perdu pour toujours, sans aucun espoir de le recouvrer un jour. La conviction intime qu'ont faussement les époptes d'un pouvoir externe est le pivot de tous ces étonnants effets. Elle dépend si absolument d'une certaine liquidité du sang que cette conviction disparaît dès que sa densité remplace sa liquidité. Toute conviction n'est qu'une modification de l'âme. Toutefois, la conviction intime qui, chez les époptes, influe sur toute l'étendue du mouvement nécessaire, n'agit sur d'autres parties du corps que sur celles où le sang a une liquidité supérieure à la liquidité ordinaire. C'est un mystère inexplicable, mais il dévoile une vérité pratique. Nulle épopte, toute en dominant au gré du concentrateur sur ses fluides internes, ne dispose de même de ceux qui sont entravés par la densité du sang. Aussi, ceux de ces êtres intuitifs qui ne dorment pas profondément en raison de cet obstacle n'éprouvent à l'ordre du concentrateur aucun effet dans les parties où le sang n'est pas liquide. Ces réflexions fournissent une remarque aussi, digne d'attention, qu'elle est négligée dans l'étude de la physiologie. C'est que les personnes dont le sang se trouve dans un état de liquidité extraordinaire n'agissent ni ne pensent comme les communs de l'espèce humaine, qui ne leur ressemblent pas. On ne les désabuse pas facilement de ce qui influe sur leur esprit et leur corps, en obéissant aveuglément à son empire, exerce ses fonctions libres comme une machine qui fléchit sous l'impulsion qui en règle le mouvement. Ce que ces individus exécutent se lie en général avec leur conviction intime, telle qu'elle convient aux époptes, et la rigueur les y attache au point de les faire revenir de leurs idées lorsqu'ils s'écartent de la règle de la conduite. On ne doit les corriger que par une conviction intime contraire fondée sur la douceur et sur un raisonnement concluant de la part de celui qui seul jouit de leur confiance. Nous avons dit que l'état de l'homme où la fluidité extraordinaire de son sang fait le fond de sa complexion approche de l'équilibre de ses parties constituantes, à jamais banni de sa nature. Pour bien comprendre cet état d'équilibre devenu désormais fantastique à notre conception, il faut considérer l'homme dans trois états distincts les uns des autres. L'un est celui d'équilibre, l'autre celui d'engorgement et le troisième celui de faiblesse. Les deux derniers ont leur degré et leur nuance. Par les effluences continuelles, l'homme éprouve journellement une déperdition des sucs vicaux, de même qu'il en regagne par l'usage des aliments salubres. Ces sucs, connus sous le nom d'esprits vitaux, de fluides nerveux ou spiritueux, d'esprits animaux, et entremêlés avec le sang, entretiennent le commerce de l'âme avec le corps et par leur circulation vivifient toutes ces moindres parties, toutes les fois que des entraves n'empêchent pas le passage du sang qui les entraîne. L'homme ne peut pas mourir tant qu'il en existe chez lui une dose requise, et par là, nulle mort subite n'est jamais sur le coup même une mort absolue, parce que la déperdition totale qui seule la provoque en est toujours successive et non instantanée, comme nous le verrons dans la suite. Il n'y a d'équilibre que lorsque l'évaporation de ces sucs est égale à leur distillation. L'homme, en venant au monde, porte avec lui le germe de sa destruction, germe qui dérange l'harmonie requise pour l'équilibre. Cet état, non seulement n'existe pas chez l'homme, mais il ne peut même pas exister, étant certain qu'il n'est pas espérable que l'homme vive sans ce vice radical dans sa constitution. Provenant d'une cause corrompue, l'effet doit nécessairement en partager la corruption. Ces sucs sont de leur nature subordonnés à l'empire de sa volonté, dûment dirigé par la conviction opportune. Il le mènerait ainsi à l'immortalité corporelle s'il ne résistait pas à ses ordres dans beaucoup d'impulsions. Cet état ne convenait qu'à l'homme primitif, tige de l'espèce humaine, l'engorgement, est le résultat de la supériorité de la distillation des sucs vicaux sur leur évaporation. C'est l'état de tous ceux qui transpirent peu ou pas du tout, et dont le sang épais dans la plus grande partie de sa masse. La surabondance de ces sucs d'ordinaire engraisse les personnes et leur donne des couleurs vives, mais n'ayant pas de jeu, par le défaut de liberté de la circulation, elle occasionne souvent des accidents imprévus, fâcheux et parfois aussi mortels. Toutefois, il est des personnes maigres et pâles qui ne transpirent pas du tout, et d'autres, grasses et colorées, qui transpirent beaucoup et se trouvent hors de l'état d'engorgement. La faiblesse dérive de la supériorité de l'évaporation des sucs vitaux et de leur distillation, C'est l'état de tous ceux qui transpirent beaucoup et facilement sans fatigue, et dont le sang liquide dans la plus grande partie de sa masse. Ils dorment très promptement, et leur sommeil est toujours lucide, c'est-à-dire qu'ils sont déjà des époptes naturelles, et qu'il ne leur manque qu'un développement pour être des époptes occasionnelles. Ces personnes sont d'ordinaire maigres et pâles, et s'anéantissent progressivement, mais avec la certitude de parvenir au terme de leur carrière, dont la parfaite connaissance de leur dissolution. C'est donc une loi intransgressible que toute l'espèce humaine, pour être censée dans son état naturel, se trouve immanquablement ou dans l'engorgement ou dans la faiblesse, c'est-à-dire dans un état permanent de maladie. Il ne devient contraire à la nature que dès qu'il dérange les fonctions ordinaires communes à la partie saine, crutelle, de l'espèce humaine. Ceux qui, par l'engorgement, sont censés jouir d'une bonne santé, sont plus près de la mort que ceux-mêmes qui sont jugés réellement malades. Un coup de sang, une apoplexie et même une paralysie sont plus souvent leur partage que celui des autres qui sont hors du domaine de cet état. Ceux qui sont malades par faiblesse sont toujours exempts d'une mort subite. Ils se roulent aussi vers la tombe, mais successivement et par gradation, et portent toujours sur eux les moyens de leur rétablissement s'ils sont dûment et opportunément soignés. Il faut donc conclure que dans cet état maladif, naturel à l'homme, la portion de l'espèce humaine faible par la liquidité extraordinaire du sang est toujours préférable à l'autre, exempte de mort subite et douée de plusieurs autres privilèges que nous allons détailler incessamment. Elle donne de très grands aperçus sur la condition de l'homme primitif et s'en approche autant qu'il est permis à sa nature pervertie et dégradée. Le sommeil lucide n'est donc qu'un état naturel de l'homme et porte l'initiative de son indestructibilité. Toute autre maladie qui s'oppose à l'existence des fonctions habituelles de l'homme est contraire au cours de la nature et déplace l'homme de sa condition commune. Elles exigent dès lors des soins extraordinaires qui aident les efforts de la nature devenus impuissants, quoique tendant toujours à la conservation de son ouvrage, parce qu'elles placent l'homme, en quelque façon, hors de sa juridiction et rend peu propice ses secours réguliers. Toutefois, il est hors de doute que si une maladie, quelque grave qu'elle fût, était accompagnée du sommeil lucide, elle aurait toujours toutes les facilités qui conviennent à cet état bienfaisant pour être guérie sans aucun secours externe. Par ce moyen, la nature conserve encore sur le malade tous ses droits maternels pour le soigner, si elle est aidée par un guide habile dans une marche qui doit obvier au dérangement des fonctions communes à l'espèce humaine. Dans ce cas, le malade n'est pas tout à fait rebelle à sa juridiction sous laquelle il vient au monde. Les accessoires du sommeil lucide qui concernent l'esprit sont encore plus étonnants que ceux qui concernent son enveloppe. Le principe intelligent y décèle une modification non seulement différente de celle qu'il a dans l'état de veille de l'homme, mais aussi de celle qu'il a dans l'état de sommeil ordinaire. Il y jouit d'une science infuse et universelle seulement de tout l'ordre physique, parce qu'il n'appartient pas à d'autres ordres. Tant qu'il fait un seul individu avec le corps, quoiqu'il soit essentiellement simple et spirituel. Il y sort de toute mesure du temps et se place dans l'immortalité, durée naturelle de sa vie. Il est, par sa constitution, doué du don de prévision d'après la susceptibilité de sa nature, parce que, dans cette éternité, tout est présent, sans avenir ni passé, sans distance et sans obstacle. Ces aperçus nous mènent à conclure péremptoirement qu'étant simple, il est exempt d'être circonscrit par l'espace, qu'il ne peut pas, par conséquent, avoir un siège précis dans le corps qu'il informe, que d'après la nature de sa pensée, il montre qu'il est apte à circonscrire tout l'espace, qu'il peut, par conséquent, sans déranger son union avec le corps, être présent partout, malgré toute espèce d'obstacle, et qu'enfin, cette simplicité qui fait sa nature n'est point en lui un manque de substance, comme dans les éléments de la matière ou dans les points géométriques, mais une surabondance qui excède la capacité de l'espace. Ces vérités, qui pour être méconnues semblent être étrangères à l'ordre physique, découvrent que l'homme se flatte plus de ce qui le conduit aux aberrations que de ce qui le conduit à la vérité. Elles sont si naturelles et tiennent si étroitement aux connaissances humaines les plus communes que, tout en paraissant mystérieuses et incroyables, elles se rangent dans la classe des vérités philosophiques, comme l'incompréhensible existence de la première cause. Ce que les sens atteignent dans l'ordre physique, au milieu encore d'un mélange d'erreurs, est la moindre partie de ce qui leur est accessible dans une foule de vérités lumineuses. Il n'est plus besoin de dire que les épeptes pénètrent les corps, y découvrent les maladies, y appliquent les médicaments communs. Et si parfois ils ne les guérissent pas toutes, du moins ils les soulagent sensiblement. Ils répondent dans la langue maternelle aux langues étrangères. Et quelquefois même, ils les parlent avec facilité. Ils lisent la pensée d'autrui, mais une pensée stable et constante, et non voluble et fugitive. Dans le sommeil, le corps perd autant que l'âme gagne, et l'âme, tout en y gagnant beaucoup, est encore bien inférieure à elle-même. Nous avons dit, à la vérité, que le corps aussi y gagnait beaucoup. Mais ce n'est qu'une raison des lumières de l'âme. Autrement, il n'offre à l'œil qu'une masse inerte et un bloc stupide. L'âme développe, dans le sommeil lucide, sa destination originelle. Mais en raison d'une dépendance nécessaire de la direction d'autrui, elle y décèle une situation humiliante, parce que sans guide, elle ne connaît pas la dignité de sa noblesse. Par le souverain empire qu'elle a sur tous les ressorts de son enveloppe, elle fait voir que l'existence des corps, qui semble aux savants du jour une certitude admissible dans la recherche des vérités occultes, ne réunit pas tous les caractères qui constituent un principe. Et c'est une déplorable déviation de leur esprit de prétendre que ce qui n'a point le témoignage et l'approbation des sens ne peut être rangé sur la ligne des vérités démontrées. Les notions que cette substance pensante donne de sa spiritualité dans l'état de ce merveilleux repos sont si sublimes et si supérieures à toutes celles qu'on croyait avoir jusqu'à présent qu'elles semblent réveiller dans la raison humaine la connaissance d'un être nouveau qui lui était auparavant tout à fait inconnu. Quoique doué de lumière si étendue, en reconnaissant néanmoins sa dépendance d'une autre cause inaccessible à sa conception, elle rappelle à l'homme sa perfidie dans l'invention d'un aveugle hasard supposé présider à l'harmonie de l'univers. Définie en elle-même, mais indéfinie dans l'espace, elle montre que sa nature est en opposition diamétrale avec celle de la matière. L'athée est obligé, à la vue de ce spectacle, de fléchir le genou devant une première cause nécessaire à l'ordre, mais inconcevable, et de reconnaître que la conception humaine ne peut pas être la mesure de l'existence des substances, parce que si tout ce qui est concevable n'existe pas toujours, il ne répugne pas que ce qui est inconcevable puisse exister de même. Le matérialiste doit aussi se couvrir de honte par sa folle prétention de croire que la matière peut penser, lorsqu'il aperçoit que ce qui a la propriété de l'intelligence a aussi celle d'être incirconscriptible dans l'espace. D'avoir une science infuse et universelle, et de voir présent ce qui est déjà passé, ce qui est possible, ce qui est à de grandes distances, et ce qui est intercepté par les obstacles les plus impénétrables. Le sommeil lucide et ses accessoires étaient connus aux anciens, mais à ceux seulement qui cultivaient la médecine à Épidaure, dans le temple d'Esculape, et à ceux aussi qui s'initiaient au mystère d'Isis, d'Osiris, de Samothrace, d'Orphée, de Cérès d'Éleusis. Leur sagesse dans l'usage qu'ils en faisaient pour l'utilité sociale les rendait si vénérables à l'opinion publique que le petit nombre de personnes qui désiraient y être admises se soumettait avec résignation aux pénibles épreuves qu'on y exigeait. Le vulgaire n'y apercevait que ce qui était à la vue de tout le monde, et les initiés, qui sous le nom d'époptes y voyaient tout, étaient astreints sous le lien d'un serment solennel à un silence inviolable sur tout ce qui était pratiqué à l'intérieur des temples. Il est très présumable que cette connaissance ne fût pas chez eux aussi exacte qu'elle peut l'être de nos jours. La spiritualité, d'où dérivent les notions sur la lucidité et sur ses ramifications dans le sommeil, ne leur était pas aussi connue qu'elle l'est maintenant par la sublimité des dogmes de l'Évangile. Même du temps de saint Augustin, l'idée de cette prérogative de l'ordre intellectuel n'était pas aussi pure qu'elle le fut par la suite dans les siècles postérieurs de l'Église. Tout en connaissant le sommeil lucide, les anciens ne pouvaient donc pas y attacher le prix qu'ils méritent, parce qu'ils n'avaient pas les notions de la science des propriétés qui conviennent à l'âme humaine et qui, dans l'époque, se détériorent en raison de son enveloppe. Du moins, on ne trouve aucune trace de cette connaissance dans leurs écrits. Tout démontre au contraire que leurs idées à ce sujet étaient fort rétrécies et même erronées. Platon, le seul qui, d'après Cicéron, ait parlé de la spiritualité de Dieu, ne s'en formait pas une autre idée que les pères grecs, comme nous le verrons dans la suite. Et ce célèbre philosophe parut encore extravagant à l'orateur romain. C'est ce qui me fait penser que beaucoup de vérités que la philosophie nous donne, comme la conquête de ses efforts, ne sont réellement que des larcins faits à la révélation primitive, à cette révélation qui éclaira le berceau du genre humain, qui, plus ou moins altéré, se conserva dans les familles chez toutes les nations du globe jusqu'à nos jours. Cette révélation, qui était d'un tout autre genre que celle faite aux apôtres et aux prophètes, sera plus particulièrement éclaircie lorsqu'il sera question de l'homme primitif. La raison a connu par ses efforts les rapports de cette source avec les vérités acquises et les a rangées dans la catégorie des vérités naturelles, parce que toutes les vérités se touchent dans un point quelconque, quoique au premier coup d'œil, elles paraissent s'entrechoquer. De ce nombre sont celles qui concernent la nature de Dieu et de ses attributs, la nature de l'esprit et de ses propriétés, l'éternité, l'immortalité et d'autres semblables. Connaître simplement par la seule raison l'existence de la première cause, c'est parvenir, d'après la marche naturelle de l'esprit humain, du connu à l'inconnu, c'est-à-dire au connu obscur, comme nous le verrons dans la suite. Mais connaître par la seule raison une nature qui présente une antithèse constante avec les idées reçues, c'est combiner avec le rapport occulte des données positives, fondées seulement sur la véracité de celui qui les annonce. On ne cherche pas par cette étude des vérités nouvelles, mais leur conformité avec les vérités démontrées qui semblent les repousser de leurs reins. La raison qui ne connaît des substances qu'avec l'extension formerait-elle l'idée des substances inétendues, c'est-à-dire simples, spirituelles et incirconscriptibles à l'espace? La raison qui ne connaît que la pensée, que par la succession des idées, aurait-elle par ses seules forces les notions d'une pensée permanente, invariable et toujours la même? La raison qui ne connaît de durée que par la mesure du temps, par une mesure qui marque le passé et l'avenir, annoncerait-elle par ses seules lumières une éternité qui n'admet que le présent? Je pourrais pousser ces questions jusqu'à l'infini, si celles qui sont mises en avant ne suffisaient pas pour établir que la philosophie qui nous démontre que les perfections de la nature de Dieu et de celle des esprits, ainsi que d'autres dogmes semblables reçus par toutes les nations comme naturelles, se conforment avec les vérités connues, n'y est parvenu que parce qu'étant assuré d'ailleurs que ce sont des vérités positives. Elle en a cherché et trouvé la liaison avec les vérités démontrées. Aussi, ce genre d'étude était tout à fait inconnu à l'ancienne philosophie du paganisme, où, si par incidence il en faisait partie, il s'y mêlait aussi un amas d'erreurs qui dénaturait la réalité. Il n'était réservé qu'à la révélation d'éclairer à ce sujet l'ignorance de l'espèce humaine. Le son de sa voix annonça, sous la foi de son auteur infailliblement véridique, ce qu'on ne soupçonnait même pas, et l'homme studieux apprit que sa raison, en s'élevant à sa hauteur, y trouvait aussi son compte. Ce que l'âme n'y comprend, ni ne pourra jamais y comprendre, est précisément ce qui dépasse les bornes de la susceptibilité de sa nature humaine et purement spirituelle. Le savoir est toujours proportionné à l'intelligence, et une intelligence bornée ne peut rien embrasser par sa raison de ce qui concerne l'infini. C'est déjà trop que d'en atteindre l'existence. C'est sans doute à ce but que visait la question de prix proposée par l'Académie des sciences de Londres il y a plusieurs années, à peu près en ces termes. Pourquoi les peuples chrétiens sont-ils plus éclairés que les nations infidèles dans les sciences humaines? Je pense que les sciences concrètes ne peuvent pas être objet de cette demande. Si l'on est de bonne foi, on ne peut pas disconvenir que les anciens, considérés comme infidèles, n'égalassent les chrétiens dans cette branche des connaissances humaines, pour ne pas dire qu'ils les surpassaient, et même de beaucoup. Leurs monuments qui sont parvenus jusqu'à nous font voir que ce qu'ils savaient était toujours porté à la plus haute perfection. Et nous pouvons en inférer, par induction, qu'ils savaient aussi beaucoup plus que nous le pensons. C'est raisonner contre le bon sens que de conclure qu'ils ignoraient tout de ce qui ne nous a pas été transmis par l'histoire. On doit même présumer, au contraire, que ce qu'ils ignoraient n'était que ce dont ils n'avaient pas senti l'utilité. S'il ne s'agissait que de ces infidèles qui ont résisté à l'appel du christianisme, il est aisé de se convaincre que les chrétiens ne l'emportent pas sur eux, ou alors seulement parce que les peuples éclairés du paganisme ont les premiers fléchi le genou devant les vérités révélées, et que sous la protection de leurs princes, ils n'ont pas cessé de cultiver les connaissances qui leur avaient été transmises par leurs ancêtres. Les chrétiens l'emportent sans contredit sur les infidèles anciens et contemporains dans les sciences abstraites. Cette supériorité dérive exclusivement de la révélation qu'ils possèdent. Elle ne peut leur être disputée par aucune autre nation qui vit ou a vécu dans les ténèbres de la superstition. Aussi, les idées qu'ils ont de Dieu, de sa nature et de ses perfections, ainsi que de la spiritualité de l'âme humaine, sont telles qu'avant eux, aucune nation éclairée du paganisme n'en a de pareille ni d'aussi juste. Les discussions des dogmes évangéliques en ont même fourni d'aussi neuves et d'aussi précises que l'ontologie, la pneumatologie et la théologie naturelle, et peuvent être considérées comme des sciences dégagées des erreurs par les chrétiens. Le peu que nous avons déjà dit plus haut sur les anciens philosophes et sur les pères de l'Église des premiers siècles démontre évidemment que ces sciences métaphysiques sont plus exactes de nos jours qu'elles ne l'étaient du temps des premiers chrétiens. Il est indubitable que beaucoup de vérités que la philosophie réclame au nombre de ses conquêtes ne sont-elles, en raison de leur sublime source, que parce qu'ayant été présentées comme positives, elles ont fourni à l'esprit humain les moyens de découvrir leur rapport au premier abord inaccessible, à la perspicacité, avec les vérités connues et démontrées. Il est donc clair que les anciens qui tiraient un grand parti du sommeil lucide, et pour la conduite de la vie, et pour l'utilité de l'humanité souffrante, ne pouvaient pas le connaître encore assez par le défaut des lumières nécessaires sur la spiritualité de l'âme humaine. Aussi, toujours sages dans leurs actions, ils ne virent dans cet état de clairvoyance qu'un effet naturel indépendant de toute influence externe et se contentèrent de ne l'appeler que du simple nom de songe. Il est certain qu'en considérant cet état de vision, sous son juste point de vue, on ne pouvait pas le caractériser d'une dénomination plus analogue à la nature. Dans la réalité, le songe ne présente à l'homme qu'un mélange de vérité et d'erreur. De même que ce que nous avons appelé le sommeil lucide, et nous verrons dans la suite que le songe, qui dans l'opinion commune n'est que le développement d'une scène chimérique, est aussi parfois une manifestation de vérités exactes. C'est de cette connaissance de la nature que tira ensuite son origine l'onirocritie, ou l'art de les interpréter, art qui, basé sur des préceptes moins justes qu'arbitraires, n'atteignit que par hasard son but, par la difficulté de démêler la chimère de la réalité et de développer l'allégorie, l'emblème et l'énigme, qui leur donnent une toute autre apparence. Toutefois, ceux qui, sous le nom de mages, s'en occupèrent, acquirent une telle réputation que le vulgaire, toujours excessif dans son enthousiasme, ne les considéra plus qu'avec une espèce de culte et d'admiration. Il leur suffit que le hasard eût quelquefois présidé à la conformité de leurs interprétations avec les événements pour qu'ils fussent réputés les possesseurs exclusifs de tous les secrets de la nature. On ne sait pas précisément de quels moyens se servaient les anciens pour provoquer le sommeil lucide au gré des besoins et des circonstances. À regarder la fable du centaure Chiron comme une allégorie qui trace ingénieusement la méthode d'endormir, il paraît que tous les procédés se bornaient à la seule présentation de la main. L'expérience démontre que cette action suffit seule au développement de cet état de repos, toutes les fois qu'il existe dans le sujet les conditions requises dont les anciens n'ignoraient certes pas le concours, la nature et la nécessité. Leur conduite avec les malades étrangers, qui n'étaient pas initiés au mystère, fait voir qu'ils ne tiraient parti du sommeil lucide que la nuit, pendant leur sommeil naturel. Il paraît qu'ils les inspectaient d'avance pour s'assurer de leurs dispositions internes et ne s'adressaient la nuit pour les consultations qu'à ceux chez qui ils avaient reconnu l'aptitude au sommeil lucide. Les autres malades qui n'avaient pas cette propriété étaient traités sans doute pendant leur sommeil naturel par les époptes du temple uniquement dévoués à ces fonctions, et ces infirmes passaient pour avoir été soignés par la divinité tutélaire du lieu.